Chapitre 25. L'année sabbatique et l'année du jubilé. Les décrets du Seigneur de toute la terre. Le lecteur remarquera une liaison morale entre ce chapitre et le précédent. Au chapitre 24, nous apprenons que la maison d'Israël est conservée pour le pays de Canaan. Au chapitre 25, nous apprenons que le pays de Canaan est conservé pour la maison d'Israël. D'une part, tout Israël sera sauvé, et d'autre part, le pays ne se vendra pas à perpétuité. La première de ces déclarations énonce un principe qui a résisté, comme un rocher, au milieu d'un océan d'interprétations diverses, tandis que la seconde déclare un fait que bien des nations ont en vain cherché à ignorer. Notre chapitre s'ouvre d'une manière particulière. Et l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. La plupart des communications contenues dans le livre du Lévitique sont caractérisées par le fait qu'elles émanent de la tente d'assignation. Elles se rapportent spécialement au service, à la communion et au culte des sacrificateurs ou à l'état moral du peuple. Il est tout naturel qu'elles aient été faites du centre de tout ce qui appartenait au service sacerdotal. Ici, cependant, la communication se fait d'un lieu différent. Et l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Verset 1. Or, nous sommes autorisés à attendre, de la montagne de Sinaï, un genre de communication différent de celui qui nous arrive de la tente d'assignation. Et en effet, le chapitre auquel nous sommes parvenus traite des droits de l'Éternel comme Seigneur de toute la terre. Ce n'est plus le culte et la communion d'une maison sacerdotale, ou les règles intérieures de la maison, mais les droits de Dieu, dans son gouvernement, de donner à un certain peuple une certaine portion de la terre qu'ils doivent occuper comme gérants. Ce n'est pas l'Éternel dans la tente, lieu du culte, mais l'Éternel sur la montagne de Sinaï, siège du gouvernement. L'année sabbatique. Et l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, le pays célébrera un sabbat à l'Éternel. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le rapport. Et la 7e année, il y aura un sabbat de repos pour le pays, un sabbat consacré à l'Éternel. Tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui vient de soi-même, de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour le pays. Et le sabbat du pays vous servira de nourriture, à toi, et à ton serviteur, et à ta servante, et à ton homme à gage, et à ton hôte qui séjourne chez toi, et à ton bétail, et aux animaux qui seront dans ton pays. Tout son rapport servira de nourriture. Versets 1 à 7. Nous avons donc ici le trait caractéristique de la terre de l'Éternel. Il voulait qu'elle jouisse d'une année sabbatique, et à cette occasion, il devait y avoir une preuve de la riche profusion dont il bénirait ceux qui étaient ses gérants. Quel bonheur de dépendre immédiatement de l'Éternel! Bienheureux le peuple pour qui il en est ainsi! Bienheureux le peuple qui a l'Éternel pour son Dieu. Psaume 144, verset 15. Nous savons, hélas, que les Israélites faillirent en ne prenant pas une entière possession de ce pays fortuné dont l'Éternel leur avait fait présent. Il le leur avait donné tout entier, et cela pour toujours. Ils n'en prirent qu'une partie, et pour un temps. Toutefois, il est toujours là. La propriété est là, quoique les gérants en soient rejetés pour le moment. Le pays ne se vendra pas à perpétuité, car le pays est à moi, car vous, vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des hôtes. Verset 23. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon que Canaan appartient tout spécialement à l'Éternel et qu'il veut que les tribus d'Israël l'occupent pour lui? Il est vrai que toute la terre est au Seigneur, mais c'est une autre chose. Il est évident qu'il lui a plu, dans ses plans mystérieux, de prendre une possession spéciale du pays de Canaan et de soumettre ce pays à un traitement particulier de le séparer de tous les autres pays en l'appelant sien, et de le distinguer par une charte, des ordonnances et des fêtes solennelles périodiques, riches de signification. Où lisons-nous qu'il doive y avoir, sur toute la surface du globe, un autre pays qui jouisse d'une année de repos entier, d'une année de la plus riche abondance? On se demandera peut-être comment ces choses peuvent-elles se faire? La réponse vient de la bouche même de l'Éternel. Et si vous dites « Que mangerons-nous la septième année ? Voici nous ne semons pas et nous ne recueillons pas nos produits. Je commanderai que ma bénédiction soit sur vous en la sixième année et elle donnera le produit de 3 ans. Et vous sèmerez la huitième année et vous mangerez du vieux produit jusqu'à la neuvième année, jusqu'à ce que son produit soit venu, vous mangerez le vieux. » Versets 20 à 22. L'homme incrédule pouvait dire « Que ferons-nous pour nos semailles ?» La réponse de Dieu était « Je commanderai que ma bénédiction soit sur vous. » Et la bénédiction de Dieu vaut 1000 fois mieux que les semailles de l'homme. Proverbe 10, verset 22. Il ne voulait pas les laisser souffrir de la faim dans son année sabbatique. Il devait se nourrir des fruits de sa bénédiction pendant qu'il célébrait son année de repos. Année qui représentait le sabbat éternel qui reste pour le peuple de Dieu. L'année du jubilé. Et tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 sabbats d'année te feront 49 ans. Et au 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras passer le son bruyant de la trompette, le jour des propitiations, vous ferez passer la trompette par tout votre pays. Versets 8 et 9. Il est intéressant d'observer de combien de manières diverses le repos millénaire était figuré sous l'économie judaïque. Chaque 7e année était une année sabbatique, et au bout de 7 fois 7 ans, il y avait un jubilé. Chacune de ces solennités annonçait, en type, le temps où le travail et la peine cesseront, où la sueur du front ne sera plus nécessaire pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais où une terre millénaire, enrichie par les pluies abondantes de la grâce divine et fertilisée par les rayons du soleil de justice, versera son abondance dans les greniers et les cuves du peuple de Dieu. Heureux temps, heureux peuple. De toutes les solennités juives, le jubilé semble avoir été la plus émouvante et la plus réjouissante. Elle était étroitement liée au grand jour des propitiations. C'est quand le sang de la victime avait été répandu que le son d'affranchissement de la trompette du jubilé se faisait entendre sur les collines et dans les vallées du pays de Canaan. Ce son si désiré était propre à faire couler un flot de joie divine sur toute l'étendue du pays. Le jour des propitiations, vous ferez passer la trompette par tout votre pays. Verset 9. Et vous sanctifierez l'année de l'an 50e, et vous publierez la liberté dans le pays à tous ses habitants, ce sera pour vous un jubilé. Vous retournerez chacun dans sa possession, et vous retournerez chacun à sa famille. Cette année de l'an 50e sera pour vous un jubilé. Vous ne sèmerez pas, et vous ne moissonnerez pas ce qui vient de soi-même, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Il vous sera saint. Vous mangerez en l'y prenant ce que le champ rapportera. En cette année du jubilé, vous retournerez chacun dans sa possession. Versets 10 à 13. Toutes les classes du peuple pouvaient sentir la bienfaisante influence de cette institution. Au son de la trompette, signal bienvenu et attendu, l'esclave était libéré. Le meurtrier involontaire retournait chez lui. Chaque héritage ou possession retrouvait son légitime propriétaire. Les pauvres et ceux qui s'étaient ruinés rentraient en possession des biens qu'ils avaient perdus. « Le pays est à moi, dit l'Éternel. Et si vous vendez quelque chose à votre prochain, ou si vous achetez de la main de votre prochain, que nul ne fasse tort à son frère. Tu achèteras de ton prochain d'après le nombre des années depuis le jubilé. Il te vendra d'après le nombre des années de rapport. À proportion que le nombre des années sera grand, tu augmenteras le prix, et à proportion que le nombre des années sera petit, tu diminueras le prix, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Et nul de vous ne fera tort à son prochain, et tu craindras ton Dieu, car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Versets 14 à 17. L'année du jubilé rappelait à l'acheteur et au vendeur que le pays appartenait à l'Éternel et ne devait pas être vendu. On pouvait en vendre les récoltes, mais c'était tout. L'Éternel ne voulait pas céder le pays à qui que ce soit. Il est important de graver cette pensée dans nos esprits. Si le pays de Canaan ne doit pas être vendu, si l'Éternel déclare qu'il lui appartient à toujours, alors pour qui le veut-il? Quels doivent être ses gestionnaires? Ceux à qui il le donna par une alliance éternelle pour le posséder aussi longtemps que la lune durera. Au jugement de Dieu, il n'y a pas sur toute la terre un lieu semblable au pays de Canaan. C'est là que l'Éternel avait établi son trône et son sanctuaire. C'est là que ses sacrificateurs avaient officié devant lui. C'est là que la voix de ses prophètes s'était fait entendre, annonçant la ruine actuelle, la restauration et la gloire future. C'est là que Jean le Baptiseur accomplit sa carrière de précurseur du Messie. C'est là que le Sauveur naquit d'une femme. Là qu'il fut baptisé. Là qu'il prêcha et enseigna. Là qu'il travailla et mourut. C'est de là qu'il monta triomphant à la droite de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit descendit en puissance le jour de la Pentecôte. C'est de là que l'Évangile se répandit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là que le Seigneur de gloire descendra bientôt et que ses pieds se tiendront sur la montagne des Oliviers. C'est là que son trône sera rétabli et son culte restauré. Ses yeux et son cœur sont toujours là. Jérusalem est précieuse pour lui. C'est le centre de toutes ses pensées et de toutes ses opérations relativement à la terre. Il est important de bien saisir ces vérités concernant le pays de Canaan. L'Éternel a dit de lui : Il est à moi. Quelle puissance pourrait-elle arracher le pays désirable de l'étreinte de l'Éternel? Il est vrai qu'il a été une source de débat, une pomme de discorde pour toutes les nations. Il a été, et il sera encore, le centre de guerres cruelles et de carnage. Mais au-dessus du bruit des batailles et des querelles des nations, ces paroles divines se font entendre à l'oreille de la foi. Ce pays est à moi. L'Éternel ne peut renoncer à ce pays, ni aux 12 tribus, par le moyen desquelles il doit en hériter à jamais. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ni le pays qu'il a juré de leur donner en possession perpétuelle. Les 12 pains du chapitre 24 témoignent de la vérité de cette première assertion, et le jubilé du chapitre 25 témoigne de la vérité de la seconde. Le mémorial des 12 tribus d'Israël est toujours devant le Seigneur, et le moment approche rapidement où la trompette du jubilé retentira sur les montagnes de la Palestine. Alors l'exilé retournera dans cet heureux pays dont il a été banni si longtemps. Alors toute dette sera annulée, tout fardeau enlevé et toute larme essuyée. Car ainsi dit l'Éternel au sujet de Jérusalem, « Voici, j'étends sur elle la paix comme une rivière et la gloire des nations comme un torrent qui se déborde. Et vous têterez, vous serez porté sur les bras et caressé sur les genoux. Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai, et vous serez consolé dans Jérusalem. Et vous le verrez, et votre cœur se réjouira, et vos os fleuriront comme l'herbe verte. Et la main de l'Éternel sera connue en ses serviteurs, et il verse sa colère sur ses ennemis. Car voici, l'Éternel viendra en feu, et s'échare comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et son tensement avec des flammes de feu. Car l'Éternel entrera en jugement avec toute chair par le feu et par son épée, et les tués de l'Éternel seront en grand nombre, et moi. Leurs actes et leurs pensées sont devant moi. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et les langues, et elles viendront et verront ma gloire. Et je mettrai au milieu d'eux un signe, et j'enverrai les réchappés d'entre eux vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude qui bandent l'arc, à Tubal et à Javan aux îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire, et ils raconteront ma gloire parmi les nations. Et ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux et sur des chars, et dans des voitures couvertes, et sur des mulets, et sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et j'en prendrai aussi d'entre eux pour sacrificateurs, pour lévites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre semence et votre nom. Et il arrivera que, de nouvelle lune à nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra pour se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, versets 12 à 23. Et maintenant, considérons un instant l'effet pratique du jubilé, son influence sur les transactions d'homme à homme. Et si vous vendez quelque chose à votre prochain, ou si vous achetez de la main de votre prochain, que nul ne fasse tort à son frère. Tu achèteras de ton prochain d'après le nombre des années depuis le jubilé, il te vendra d'après le nombre des années de rapport. Versets 14 et 15. L'échelle des prix devait être réglée par le jubilé. Si cet événement était prêt, le prix était bas. S'il était éloigné, le prix était élevé. Tous les contrats humains quant aux terres étaient annulés dès l'instant où la trompette du jubilé se faisait entendre, car la terre était à l'Éternel, et le jubilé remettait tout dans sa condition première. Ceci nous enseigne une belle leçon. Si nos cœurs entretiennent l'espérance constante du retour du Seigneur, nous mettrons peu de prix à toutes les choses terrestres. Dans la mesure où nous sommes dans l'attitude de l'attente de Jésus du ciel, nous sommes détachés de ce monde. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens 4, verset 5. Celui qui vit dans l'attente habituelle de l'apparition de Christ doit être séparé de ce qui sera jugé et détruit quand il viendra. Il n'est pas ici question de la brièveté et de l'incertitude de la vie humaine, ce qui est tout à fait vrai, ni du caractère transitoire et peu satisfaisant des choses d'ici-bas, ce qui est également vrai. Il s'agit de quelque chose de bien plus puissant et d'une plus grande influence que tout cela. C'est « le Seigneur est proche ». Puissent nos cœurs être touchés et notre conduite influencée en toutes choses par cette vérité précieuse et sanctifiante.